Frédéric Gramel, bonjour.
Bonjour.
Qui est Félix Houphouët-Boigny en 1960? Est-ce que c'est un militant, un leader anticolonialiste, un ministre bien implanté dans l'appareil d'État français, un ancien communiste, un chef baoulé? Comment vous le présenteriez à l'époque?
Il est tout cela à la fois. Il a été quelqu'un qui a bien appliqué l'ancienne formule, hein, in medio stat virtus. Dans le juste milieu que se trouve la vertu. Alors, chef baoulé, oui. Il n'était pas le grand chef du pays baoulé. Il était, par ses origines, petit-fils de chef de la région d'Abangourou. Quand les cantons ont été créés en Côte d'Ivoire en 1934, Yamoussou Kro était la tête de pont du pays Akoué. Et la famille d'Houphouët a été désignée comme chef de canton. Et de ce fait, Houphouët avait un jeune frère qui s'appelait Augustin, qui est devenu chef de canton dès ce moment-là, et qui est mort en décembre 1938. Et Houphouët a dû, à partir de juillet 1939, abandonner la fonction publique. Il était médecin africain depuis 1925. Il a dû abandonner ses charges de médecin africain et aller s'installer à Yamoussou Kro comme chef de canton. Pour moi, ça a été la maternelle du pouvoir à ce moment-là. Il a appris à gérer les hommes, à régler des problèmes et à travailler avec l'administration française. Donc il avait vraiment, il était chef de canton, il a fréquenté l'administration française. Plus tard, il était baptisé aussi, ça vous l'avez pas dit, mais c'était un chrétien. Plus tard, il arrive en France d'ailleurs, les premiers chez lesquels il va dormir, c'est chez les prêtres de la Société des Missions Africaines. Et ensuite, au Palais Bourbon, il est apparenté au groupe parlementaire communiste. Donc avec eux aussi, il fait un bout de chemin jusqu'en 1950. Avec les communistes, il apprend les luttes. Ils sont arrivés au Palais Bourbon. Ils étaient, je crois, 9 députés de toute l'Afrique. Et les règlements de l'Assemblée prévoyaient que pour former un groupe parlementaire, on soit 14. Et les trois grandes familles, c'était le MRP, la SFIO et le Parti communiste. Et donc, Houphouët a proposé aux 9 députés africains de s'entendre pour se répartir dans les différents groupes parlementaires pour pouvoir faire porter par les trois grandes familles politiques qui régnaient sur la France, faire porter les problèmes africains. Et lui, il s'est retrouvé comme ça dans le groupe parlementaire communiste. Donc c'était ni par conviction, ni par opportunisme. C'est par opportunité, si on veut. Avec eux, il a fait un bout de chemin qui a été tout à fait normal. Jamais les communistes n'ont attaqué Houphouët. Jamais il ne les a attaqués. Ils se sont aidés discrètement. Et à ce moment-là, grâce à eux, toute la classe politique ivoirienne va être formée. Ils avaient quelque chose qu'on appelait les GEC, les groupes d'études communistes. Et tous les compagnons d'Houphouët vont être formés par ces gens-là, par les communistes, qui vont vraiment initier la classe politique ivoirienne à la politique. Ça va valoir la répression aux amis d'Houphouët, parce qu'ils avaient des méthodes quand même un peu violentes. Ils s'opposaient systématiquement à l'administration, c'était beaucoup de chicanes. Et Houphouët, donc, quand il va estimer que le compagnonnage des communistes nuisait au développement du territoire de la Côte d'Ivoire, de se désapparenter. Ça va se passer le 18 octobre 1950. Et à partir de là, progressivement, il se rapproche de l'administration. Et en 1956, le 2 février, il entre au gouvernement, appelé par Guy Mollet. Et de 1956 jusqu'à 1960, il va connaître les différentes évolutions de la politique française, avoir aussi tout un réseau. Il va avoir beaucoup de relations en France.
Comment lui s'engage dans le syndicalisme, la lutte anticoloniale, et comment ça prend, comment sa notoriété se construit à cette époque?
En 1939, il quitte la fonction publique et il va s'installer à Yamoussou Kro comme planteur, comme chef de canton certes, mais son jeune frère qui venait de mourir avait lancé de grosses plantations et il était devenu donc propriétaire terrien et paysan agriculteur. Et donc, Houphouët s'intéresse au café et au cacao. Donc, dans cette position, il était confronté aux revendications, aux difficultés. Et des difficultés existaient. À l'époque coloniale, il y avait ce qu'on appelait les travaux forcés. Pendant les travaux forcés, on mobilisait des jeunes, disons de 7 à 77 ans, qui allaient travailler sur les chantiers publics. Et quand on mobilisait des gens dans les régions, dans les cantons, dans les villages, l'administration envoyait une partie de cette main-d'œuvre sur les chantiers publics, mais donnait une partie aux planteurs européens qui étaient ici. Ça créait une discrimination entre les gros planteurs africains et les planteurs européens. Un Africain, grand propriétaire terrien, pouvait être mobilisé pour les chantiers publics et être mis de cette façon comme main-d'œuvre à la disposition d'un planteur européen. Pendant ce temps, le service de l'agriculture passait, voyait que la plantation de l'Africain n'était pas bien entretenue et lui infligeait une amende. Il y avait ce type de problème. Vous aviez d'autres problèmes comme le prix du kilo du produit. Tous les produits, l'arachide au Sénégal, le café, cacao en Côte d'Ivoire, tout ça, partaient en France pour entrer sur le marché international. Par exemple, la guerre de 39-45, quand elle a éclaté, l'Allemagne rapidement occupe la France et tous ces produits étaient captés par l'Allemagne et pas par le gouvernement de Vichy. Et quand le gouvernement d'Alger a été mis en place, le gouvernement d'Alger a décidé que les produits ne soient plus envoyés en métropole, mais qu'ils soient, s'ils peuvent pas être écoulés par des voies parallèles sur le marché international, qu'ils soient brûlés sur place et que les budgets des gouvernements des territoires trouvent des chapitres pour indemniser les paysans. À partir de ce moment-là, il y a eu une grosse discrimination entre les planteurs blancs et les planteurs noirs. Le planteur blanc disait que la plantation de l'Africain, ce n'était pas de la culture, mais c'était de la cueillette. Essentiellement parce que le blanc, il alignait les pieds de café et de cacao. Les Africains n'avaient pas l'habitude d'aligner leurs plants. La terre était la même, le produit était le même, mais à la vente, on avait décidé que le kilo de café ou de cacao de l'Africain soit vendu 2 francs quand c'était 6 francs pour le blanc. Donc tout ça, c'était des problèmes que seuls les syndicats pouvaient traiter. Alors, les planteurs africains militaient avec les planteurs européens dans un syndicat qui s'appelait le SACI, le syndicat agricole de Côte d'Ivoire. Et ce syndicat ne prenait pas en compte les revendications des Africains sur ces questions-là. Et puis se tient fin janvier, début février 1944 à Brazzaville, la conférence de Brazzaville pour décider de ce que les colonies doivent devenir. Et cette réunion aboutit à 2 décisions extrêmement importantes. Premièrement, les Africains vont être autorisés à créer des syndicats autonomes. Et deuxièmement, les Africains vont être autorisés à élire des députés à un deuxième collège qui iront apprendre la politique en métropole pour être associés à la gestion de leurs affaires. Et donc, en avril, Oufouette décide que les Africains qui militaient au SACI fassent scission du SACI pour créer le syndicat agricole africain. Donc, l'initiative vient de lui et il devient le président du syndicat.
Il est connu déjà à cette époque-là ou
pas ? Pas vraiment. Il était connu dans les endroits où il avait exercé comme médecin. Mais la conférence de Brazzaville, c'est vraiment la chiquenaude initiale. C'est à partir de là qu'il va se projeter sur la scène. D'abord donc en créant le syndicat en avril 1944. Il réunit les gros planteurs. Il y avait un gouverneur à l'époque qui s'appelait André Latrille, qui était un de ses grands amis, qui va l'aider, qui va le faire connaître, qui va conseiller à tout le monde de travailler avec ce jeune homme. Et puis les choses vont partir de cette façon. Ensuite, il va passer en politique parce que les premières élections vont avoir lieu en 1945. Et en 1945, quand Oufouet s'intéresse à la politique, à la demande d'ailleurs de ses camarades du syndicat, c'est avec le matériel roulant et les fonds du syndicat qu'il fait campagne dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Quand il arrive dans le Nord, Bon Coulibaly dit à sa population, le jeune homme qui est venu l'année dernière, il a tenu parole, puisque tous vos enfants sont revenus avec de l'argent, du travail qu'ils ont fait en basse-côte. Il est venu me demander de l'aide à nouveau pour qu'on l'élise comme député de la Côte d'Ivoire. Il a promis de faire supprimer les travaux forcés, s'il est élu député, faisons-lui confiance cette deuxième fois aussi. Et c'est comme ça que, progressivement, la popularité d'Oufouette a commencé à s'étendre.
On dit souvent que Oufouette se satisfaisait davantage de la situation créée par la loi cadre, donc de la communauté francophone africaine, que de l'indépendance complète. C'est vrai ou c'est faux, ça ?
Disons qu'il n'était pas pour l'indépendance immédiate. La vision d'Oufouette était la suivante. Tous les pays qui ont été indépendants ont été colonisés. Plus longtemps la colonisation a duré, mieux le pays qui va être cédé aux autochtones a été construit, et mieux les fils du pays, les autochtones qui vont gérer après les colons, ont été formés. Donc, dans ses vues, il n'y avait aucune urgence à aller à l'indépendance tout de suite. Il estimait qu'en 60, c'était trop tôt. Sur cette question, quand les gens parlent aujourd'hui, ils ne donnent pas ces détails-là. Donc on dit brutalement qu'ils étaient contre l'indépendance. Non. Oufouette considérait qu'on allait être indépendant un jour. Mais pour lui, il fallait tout faire pour que ça se passe le plus longtemps possible après. Vous savez, il y avait deux systèmes scolaires. Il y avait un système scolaire pour les Africains qui formait les Africains uniquement pour être instituteurs, commis et médecins africains. Et ce système s'arrêtait au maximum. Les études supérieures, c'était le brevet. Il y avait, dans les territoires ici, une autre filière qu'on appelait la filière métropolitaine. Pour les enfants des Européens qui étaient ici, ou bien pour les rares Africains qui avaient accédé à la nationalité française. D'ailleurs, on distinguait dans la société le premier collège, quand on allait aux élections, et le deuxième collège. On distinguait les citoyens et les non-citoyens, qu'on appelait encore les sujets français. Donc les sujets français, il n'était pas question du tout qu'on les forme comme les gens de métropole. Ça fait qu'on avait des cadres qui n'étaient pas formés pour entrer tout de suite, être opérationnels dans le système à un niveau international. C'est pour ça que dès 1946, il va envoyer une centaine d'enfants, 150 même, en métropole, pour qu'ils aillent apprendre comment les Blancs apprennent, comment ils gèrent leur pays, comment ils font tourner leurs usines et tout cela. Donc voilà l'enjeu.
Mais alors quand il disait à De Gaulle que lui estimait que la Côte d'Ivoire n'était pas prête à accéder à l'indépendance tout de suite, qu'est-ce qu'il recevait comme réponse des autorités françaises ?
Ils ont fait semblant de comprendre ça et puis ensuite, entre guillemets, ils l'ont trahi. La Côte d'Ivoire devient république le 4 décembre 1958. Et Oufouette devient premier ministre en Côte d'Ivoire, tout en étant ministre d'État dans le gouvernement français. Et il se lance dans tout ce qui va aboutir à l'indépendance, mais il se lance dans une action qui est une action de consolidation de la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc il est allé à l'indépendance à contre-cœur, mais je crois qu'il a tout fait quand même pour que la relation entre la France et la Côte d'Ivoire soit une relation extrêmement chaleureuse, une relation de coopération, au-delà même de ce que prévoyait le cadre de la communauté franco-africaine. Il était, après avoir été au gouvernement français pendant 6 ans, je crois dans 14 gouvernements si je ne m'abuse, il apparaissait ici en 59 et en 60 comme l'homme politique ivoirien le plus français. C'était comme si un Français était chef d'État en Côte d'Ivoire. Quand on arrive à l'indépendance le 7 août, il est chef d'État, Premier ministre, chef de l'État. Et le 27 novembre 1960, on organise des élections, les premières élections au suffrage universel, où il est élu président de la République.
On l'oppose souvent à Senghor dans ses conceptions politiques, et notamment sur ses conceptions de l'intégration régionale. Senghor, la Fédération du Mali, où faut être le Conseil de l'Entente.
Oui.
Qu'est-ce qui les distinguait
Ils sont très différents à de très nombreux égards. Oufouette dira un jour que Senghor est parti en France à 4 ans, lui, il y est allé à 40 ans. Et donc, Senghor n'avait pas le même enracinement que lui dans l'Afrique et que toutes leurs différences se trouvaient là. On prête à Oufouette un commentaire à la suite d'une situation. On raconte qu'il y avait une exposition d'œuvres d'art dans le hall de l'Hôtel d'Ivoire où Oufouette était allé chercher Senghor. Et on raconte que Senghor s'attardait devant les tableaux et Oufouette se plaignait qu'en revenant de Yamoussoukro, il n'a prêté aucune attention. aux belles cabosses de cacao sur les cacaoyers. Ça donne une idée de leur profil. L'un intellectuel, poète qu'on connaît, l'autre paysan. Mais surtout, quand ils arrivent en France comme députés, ils ont aussi des trajectoires complètement différentes. Senghor est apparenté à la SFIO, ou Fouette au Parti communiste. Et ils partent pour rédiger la constitution de la 4e République. L'assemblée à laquelle ils participent est une assemblée constituante, c'est après la guerre. Ils rédigent tous la constitution. La constitution au référendum est rejetée par le peuple français. Et il y a une deuxième assemblée constituante qui va être élue à partir, je crois, de juin 1946. Dans la première assemblée constituante, en avril 1946, Oufouette avait présenté une loi qui était la loi sur la suppression du travail forcé, selon les promesses qu'il avait faites à son électorat ici en Côte d'Ivoire. Senghor avait été associé en commission aux discussions et à la rédaction de cette loi qu'Oufouette a présentée ensuite. Probablement, c'est la seule occasion où les deux ont conjugué leurs énergies pour travailler ensemble. Pour le reste, ça a toujours été des visions et des oppositions en permanence. Senghor était pour la fédération. Il faut penser qu'il y avait en Afrique deux grands blocs, l'AOF, l'Afrique occidentale française avec ses 8 territoires, et l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Oufouette militait pour que la relation avec la France se fasse de façon directe entre les territoires et la métropole, au lieu de passer par la fédération, parce qu'il estimait que la relation au sein de la fédération n'était pas très saine. Avant de faire éclater la fédération, il a fait faire une étude sur le bilan. Et on se rend compte que la Côte d'Ivoire représentait sur une trentaine d'années, disons, 38% des exportations de toute l'AOF, 88% des recettes en dollars de l'AOF. Les contributions des territoires profitaient essentiellement au développement de Dakar. Même l'arrière-pays sénégalais n'en profitait pas réellement, mais à plus forte raison les territoires qui étaient plus éloignés. Et donc pour Oufouette, ça ne fonctionnait pas. Oufouette considérait que si la répartition du budget et des investissements était faite directement par Paris, les territoires en profiteraient plus parce que les territoires seraient considérés ou traités comme les départements français le sont. Et donc c'était le point de vue d'un ressortissant d'un territoire. Le point de vue d'un ressortissant du pays qui était le chef-lieu de la fédération ne pouvait pas être le même. Et ça conditionnait leur prise de position en permanence. Oufouette a été associé à l'élaboration de la loi cadre par Gaston Defferre. Et en 1956-57, la loi cadre a été effectivement mise en place. Et quand on regarde le contenu de la loi cadre, c'était essentiellement en faveur des territoires. Senghor s'était battu pour qu'il en soit différemment. Il n'a pas réussi parce que non seulement il n'était plus en situation d'influer réellement sur les événements, mais en plus il avait commis l'erreur en 1946 de ne pas se présenter à la création du RDR à Bamako. D'ailleurs en obéissant à des instructions qui leur avaient été données par la SFIO, alors que les communistes poussaient à ce que les mouvements de revendication et tout cela se créent, ben, ils ont été absents et ils ont manqué de lieu d'influence. Senghor a essayé ensuite d'ancrer à travers les indépendants d'outre-mer ou à travers la Convention africaine, mais ça n'avait jamais pris réellement. Et Oufouette, en revanche, avait réussi à étendre le RDA dans un certain nombre de pays où le parti principal était une sous-section du RDA. Donc à travers ce canal, il a eu de l'influence dans les différentes territoires, y compris jusqu'en Afrique équatoriale française, Gabon, le Tchad. Donc tout ça a beaucoup aidé Oufouette. Et résultat, il a réussi à faire passer ses idées. La fédération a été effectivement démantelée. C'est les thèses d'Oufouette donc qui ont prévalu.
Donc le Conseil de l'Entente
Alors le Conseil de l'Entente, Senghor a essayé, après le démantèlement de l'AOF, de constituer une petite fédération entre le Sénégal et le Soudan français, qu'on a appelé la Fédération du Mali, qui rapidement n'a pas marché. Il faut se rendre compte que Le péché originel de toutes ces créations, de toutes ces institutions, c'était que les gens voulaient être eux-mêmes le leader. Mais c'est pour contrebalancer la fédération du Mali que Fouad va créer le Conseil de l'Entente. Ils ont annoncé la mise en commun d'un certain nombre d'institutions, comme la fonction publique, où Fouad est allé même en 62 jusqu'à réclamer la double nationalité pour tous les ressortissants de pays membres de l'entente. Donc un Ivoirien serait de nationalité voltaïque, nigérienne, oui, du Niger et du Dahomey. En même temps, les populations n'ont pas voulu, ni en Côte d'Ivoire ni ailleurs. Mais l'autre objectif qui était annoncé ce 29 mai 1959, c'était l'union douanière, la coopération à ce niveau-là. Je crois que ça a plus ou moins marché jusqu'à maintenant. De toute façon, le Conseil de l'Entente s'est donné d'autres objectifs et a essayé de vivre, même en vivotant, jusqu'à aujourd'hui.
Félix Houphouët-Boigny est resté très proche de la France, même après l'indépendance. On lui attribue d'ailleurs la paternité du terme France-Afrique. Mmh. Comment expliquer cet état de fait, le fait que lui, même plus que tous ses pères africains de l'époque, soit resté aussi proche de la France ?
Il a fait toutes ses classes en France. D'abord ici, il a estimé que les Français qui vivaient ici devaient rester ici. Avant de parler de coopérants, il y avait une bonne communauté française ici, où Fouad a essayé de créer les conditions pour que cette communauté vive ici correctement et contribue au développement de la Côte d'Ivoire. En fonction d'une vision du développement qui était la sienne. Il considérait que, comme je vous ai dit, les Africains n'étaient pas assez prêts à prendre en charge toutes les contraintes, toutes les obligations du développement.
Du coup, il devenait un peu le gardien des intérêts français en Afrique, ou la voix de la France, si j'ose dire. C'est auprès de ses pairs.
Effectivement, il a été accusé d'être l'homme de la France. C'est une façon de voir. Est-ce que les pays africains étaient prêts au moment de l'indépendance ? Ou prêts vraiment à tous les plans, hein ? Combien de cadres avions-nous ? Dans les accords de coopération, on faisait venir des œufs de France. On a du mal à se représenter ça aujourd'hui. Et c'est progressivement seulement que tous ces liens vont être rompus chaque fois que, sur ces différents points, la relève est assurée. On a demandé tout de suite l'africanisation des cadres. Étions-nous prêts ? Fouad, c'était un pragmatique. Il fallait d'abord maintenir la coopération avec la France et puis progressivement remplacer quand la relève est prête. D'autres voyaient la chose différemment.
Il aimait apparemment reprendre souvent cette citation de Goethe, « Je préfère l'injustice au désordre ».
Oui.
Est-ce que, selon vous, ça résumerait son mode d'administration politique? Je rappelle donc à l'époque, il n'y a qu'un parti unique, le PDCI-RDA, jusqu'en 1990. Est-ce que cette maxime résume sa politique intérieure?
Quand Houphouët dit cela, c'est qu'il a l'expérience de ce qu'on appelle le désordre social. Lui-même en a créé parfois. Mais déjà, à l'époque coloniale, il en avait eu l'expérience. D'abord, la personnalité d'Houphouët était fondamentalement la personnalité d'un homme qui était attaché à la paix. Quand il a provoqué en 1963 les événements de 1963, c'est un vaste coup de filet avec des arrestations dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs sociaux.
Vous dites « il a provoqué ».
Il a provoqué, oui. C'était pas... Il est revenu d'ailleurs en 70-71 pour expliquer qu'on l'avait trompé, etc., que c'était les renseignements qu'il avait, ils n'étaient pas bons. Mais on n'avait pas tort de parler de faux complot. Il avait deux bonnes raisons de faire ce qu'il avait fait. Il y avait une raison nationale et une raison internationale. La raison nationale, c'est que des forces centrifuges existaient effectivement en Côte d'Ivoire. Quand Houphouët a traversé la période coloniale, c'était avec tout le monde. Toutes les régions avaient vraiment apporté leur soutien à Houphouët pour que le PDCI-RDA arrive au pouvoir. beaucoup de partis. Le multipartisme existait depuis 1946. Il y avait un parti SFIO, il y avait un parti progressiste ici, il y avait d'autres partis. Tous avaient accepté de se saborder pour aider Oufouette, avec le PDCI en tête, à former un parti unique. Donc, tout le monde a aidé Oufouette. Il arrive au pouvoir, on constate qu'il se repose beaucoup sur les gens de chez lui qui n'avaient pas été forcément ceux qui avaient répondu présents aux heures chaudes. Ça donnait le sentiment aux gens de l'Ouest qui avaient vraiment renforcé la main d'Oufouette à l'époque coloniale, qu'ils étaient lésés, ils étaient brimés, ils n'étaient pas dans la répartition du gâteau, ils n'étaient pas récompensés au niveau qui devait être le leur. Donc, ils se sont donné un leader qui était Charles Danvailly, qui était ministre de l'Agriculture et de la Coopération. Le Nord s'était donné aussi un champion qui était Amadou Koné, ministre de la Santé publique et de la Population. Et donc, il y avait des forces centrifuges qui pouvaient exposer la Côte d'Ivoire à une implosion. Donc, Oufouette a lancé ce coup de filet pour mettre tout le monde en garde. Pendant 4 ans, les gens ont vécu ça vraiment comme un moment de terreur. Et puis, ça a été réglé. Au plan international, c'était une période très agitée. En 1962 déjà, il y avait l'exemple du Sénégal. Il y avait un contentieux entre le président du Conseil, Mamadou Dia, et le président de la République, Senghor, qui avait abouti d'ailleurs à l'arrestation de Mamadou Dia avec la peine maximale à l'époque. Il avait écopé de la détention à perpétuité. Mamadou Dia est sorti, je crois, 11 ans ou 12 ans après. Donc, il y avait l'exemple sénégalais. Il y avait le Ghana. Au Ghana, il y avait eu un attentat contre Nkrumah. En Tunisie, contre Habib Bourguiba. Au Tchad, partout, l'Afrique était agitée. Et donc, vous avez considéré que ces agitations pouvaient donner des idées à la classe politique ivoirienne, à tous ceux qui, après avoir été envoyés aux études en 1946, n'étaient pas revenus pour travailler à ses côtés. Tous ces gens-là pouvaient ressusciter le vieux parti comme le parti progressiste, qui avait beaucoup d'intellectuels. Donc, il y avait ces raisons-là. Si on regarde le verre à moitié vide, on dira que ça a anesthésié le pays. Si on le regarde à moitié plein, on dira que ça a permis à Oufouette de dérouler son plan de développement et de construire quelque chose dans ce pays.
Vous diriez que ça a anesthésié les aspirations démocratiques à l'époque qui pouvaient commencer à se manifester?
On peut dire ça, mais en tout cas, ça a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir des bases solides au plan économique. Parce que les derniers prisonniers sortent en 67, et entre 67 et 80, c'est l'année des premiers plans d'ajustement structurel, le pays se développe réellement. Et après la mort d'Oufouette, pendant longtemps, le pays va s'asseoir sur les bases qu'Oufouette lui a données à ce moment-là.
Est-ce que vous diriez que les années 60 étaient l'âge d'or de la Côte d'Ivoire, en termes de développement, en termes économiques?
Pas en termes politiques, puisque il y a eu ces 4 années noires de 63-67. Mais au plan économique, oui, ça a été réel. Ça a donné à la Côte d'Ivoire de vraies assises. Et même quand je dis au plan politique, on ne peut pas dire âge d'or, c'est difficile de juger ce qui s'est passé vraiment tout en noir ou tout en blanc. Je pense qu'il faut être nuancé. Si vous prenez la situation en termes de mort, par exemple, de perte de vies humaines, il y a eu un seul mort, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une bavure. C'était Ernest Boka. Je ne dis pas ça pour justifier quoi que ce soit, hein, mais enfin, ça permet de relativiser quand même. C'est ça aussi l'intérêt de l'histoire. Hein. L'histoire, ça vous donne des éléments pour relativiser.
Aujourd'hui encore, tout le monde dans le paysage politique ivoirien se réclame d'Oufouette Boigny. Même ses adversaires déclarés à l'époque, le FPI ne lui tape plus dessus comme ils ont pu le faire à une époque, et parfois même l'invoque dans des discours. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il a été canonisé politiquement après sa mort. Quel est l'héritage qu'il a laissé et dont se saisissent les partis politiques aujourd'hui?
Écoutez, d'abord, tout le monde a raison de se dire héritier Loufouette. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire passés dans le parti unique. Et quand Loufouette parle d'héritage, d'ailleurs, c'est en termes de bénéfice de son action qui parle de ça. Je crois que c'est en 85, il a donné une très grande conférence de presse à l'issue du congrès du PDCI-RDA. Et Loufouette a dit très clairement qu'on parle d'oufouettisme, mais que lui, il ne connaît pas l'oufouettisme. Donc tous ceux qui viennent parler d'oufouettisme, ils ne se reconnaissaient pas en eux. Alors il disait que si on veut essayer de comprendre ceux qui parlent d'oufouettisme, il disait que c'était peut-être le jugement, l'appréciation qu'ils ont de sa politique qui les amenait à cela. Il disait qu'en Côte d'Ivoire, on essaye d'aider tout le monde. On construit des écoles pour que tous les enfants aillent à l'école. Les plus méritants ont des bourses pour faire des études jusqu'au bout. Il disait que l'État essayait de développer toutes les régions. On cultivait le café, cacao dans certaines régions, le coton dans d'autres régions. Et l'État s'efforçait de payer ses produits au juste prix. Et l'État se chargeait de créer des routes pour que les produits puissent être écoulés jusqu'au point de vente, en particulier au port d'Abidjan et de San Pedro. Il disait que en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de prisonniers politiques, de prisonniers d'opinion, que vraiment, il s'efforçait de laisser chacun libre de ses opinions. Il disait que il n'avait jamais versé une goutte de sang humain et qu'il priait Dieu pour que ni lui, ni en son nom, le sang ne soit versé. Et que c'est peut-être tout cela que les gens appellent loufouettisme. Il disait des choses dans lesquelles on peut puiser matière à réfléchir aujourd'hui. C'est peut-être ça que les gens appelaient loufouettisme, mais que lui-même n'avait jamais parlé de loufouettisme, et que s'il avait un héritage, de son point de vue, un héritage à laisser, ce serait le PDCI-RDA. Il appelait ça ce parti d'émancipation qui a conduit le pays à l'indépendance. C'est ce qu'il laisse aux Ivoiriens. Le multipartisme était inscrit dans la Constitution. Il avait fait suspendre un moment, mais on n'avait pas biffé la ligne sur l'article sur le multipartisme. Donc, par une convention, on pouvait retrouver le multipartisme. C'est ce qui s'était passé en 90. Mais les animateurs des autres partis pouvaient se réclamer normalement de loufouettisme, dans la mesure où tous avaient bénéficié de loufouettisme tel qu'ils l'avaient expliqué, et dans la mesure où la politique de la Côte d'Ivoire, Loufouette, avait profité à tout le monde. Non. Il n'y avait aucun problème sur ça, mais l'héritage, pour lui, c'était le PDCI-RDA. Tous ceux qui se réclamaient politiquement de lui devaient faire en sorte que ce parti vive et prolonge ce qu'il avait fait. Il considérait que lui, il s'était contenté d'ouvrir le chemin. Les Baoulés ont un nom qui est devenu un mot qui est devenu un nom maintenant, un nom de personne, Bachibo, celui qui ouvre, le fendeur de brousse. Lui, il était celui qui avait ouvert le chemin, mais que ce sont les enfants qui viennent maintenant qui doivent élargir le chemin et aller plus loin.
Frédéric Gramel, merci.